Chapitre 2 : La cité naissante. Immédiatement, le Kaoudjer organisa le travail. De tous ceux qui les offrirent, et ce fut, il faut le dire, l'immense majorité des colons, les bras furent acceptés. Divisés par équipes sous l'autorité de contremaîtres, les uns amorcèrent une route charretière qui réunirait Liberia au Bourg-Neuf. Les autres furent affectés au transfert des maisons démontables, jusqu'ici édifiées au hasard, et qu'il s'agissait de disposer d'une manière plus logique. Le Kaoudjer indiqua les nouveaux emplacements, cela parallèlement, ceux-ci opposés à l'ancienne demeure de Doric, laquelle commençait déjà à s'élever à peu près à l'endroit occupé antérieurement par le palais de Beauval. Une difficulté se révéla tout de suite. Pour ces divers travaux, on manquait d'outils. Les émigrants qui, pour une cause ou une autre, avaient dû abandonner leurs exploitations de l'intérieur, ne s'étaient pas mis en peine de rapporter ce qu'ils y avaient emporté. Force leur fut donc d'aller les rechercher, si bien que le premier travail de la majorité des employeurs fut précisément de se procurer des outils de travail. Il leur fallut refaire une fois de plus le chemin si péniblement parcouru lorsqu'ils étaient venus se réfugier à Liberia. Mais les circonstances n'étaient plus les mêmes, et il leur parut infiniment moins pénible. Le printemps avait remplacé l'hiver, ils ne manquaient plus de vivres, et la certitude de gagner leur vie au retour leur faisait un cœur joyeux. En une dizaine de jours, les derniers étaient rentrés. Les chantiers battirent alors leur plein, la route s'allongea à vue d'œil, les maisons se groupèrent peu à peu harmonieusement, entourées de vastes espaces qui seraient dans l'avenir des jardins, et séparées par de larges rues qui donnaient à Liberia des airs de ville au lieu de son aspect de campement provisoire. En même temps, on procédait à l'enlèvement des détritus et des immondices que l'incurie des habitants avait laissé s'amonceler. Commencée la première, l'ancienne maison de Doric fut également la première à être à peu près habitable. Il n'avait pas fallu beaucoup de temps pour démonter cette construction légère et pour la réédifier à son nouvel emplacement, bien qu'on l'eût notablement agrandie. Certes, elle n'était pas terminée, mais ses parois, encastrées dans le sol, étaient debout et le toit en place, de même que les cloisons séparatives de l'intérieur. Pour s'installer dans la maison, il n'était pas nécessaire d'attendre l'achèvement des contre-murs extérieurs. Ce fut le 7 novembre que le Kaoudjer en prit possession. Le plan en était des plus simples. Au centre, un entrepôt dans lequel fut déposé le stock de provisions, et autour de cet entrepôt, une série de pièces communiquant entre elles. Ces pièces s'ouvraient sur les façades nord, est et ouest. Une seule, au sud, sans issue à l'extérieur, était commandée par les autres. Des inscriptions, tracées en lettres peintes sur des panneaux de bois, indiquaient la destination de ces diverses salles. Gouvernement, tribunal, police, disaient respectivement les inscriptions du nord, de l'ouest et de l'est. Quant au dernier de ces locaux, rien n'en révélait l'usage, mais le bruit courut bientôt que là se trouverait la prison. Ainsi donc, le Kaoudjer ne s'en reposait plus uniquement sur la sagesse de ses semblables, et pour que l'autorité fût solidement assise, il la fondait sur ce trépied, la justice, au sens social du mot, la force et le châtiment. Sa longue et stérile révolte n'aboutissait qu'à appliquer, jusque dans ce qu'elles ont de plus absolu, les règles hors desquelles l'imperfection humaine a, depuis l'origine des temps, rendu toute civilisation et tout progrès impossible. Mais des locaux, des inscriptions précisant l'usage de ce qu'on devait en faire, tout cela n'était en somme qu'un squelette d'administration. Il fallait des fonctionnaires pour exercer les fonctions. Le Kaoudjer les désigna sans tarder. Hartlepool fut placé à la tête de la police, portée à 40 hommes, choisis, après une sélection rigoureuse, exclusivement parmi les gens mariés. Quant au tribunal, le Kaudjer, tout en s'en réservant personnellement la présidence, en confia le service courant à Ferdinand Boval. Assurément, la seconde de ces désignations avait de quoi étonner. Pourtant, ce n'était pas la première de ce genre. Quelques jours auparavant, le Kaudjer en avait fait une autre, au moins aussi surprenante. Le paiement des salaires et la vente des rations représentaient maintenant une besogne absorbante. L'échange du travail et des vivres, bien que l'opération fût simplifiée par l'intermédiaire de l'argent, exigeait une véritable comptabilité, et cette comptabilité, un comptable. Le Kaudjer nomma en cette qualité ce John Rame, à qui une existence de plaisir avait coûté à la fois santé et fortune. Quel but avait poursuivi ce dégénéré en participant à une entreprise de colonisation? Sans doute il ne le savait pas lui-même, et il avait obéi à des rêves imprécis de vie facile dans un pays vague et chimérique. La réalité, infiniment plus rude, lui avait donné les hivers de l'île Host, et c'était miracle que cet être débile y eût résisté. Poussé par la nécessité, il avait vainement essayé, depuis l'établissement du nouveau régime, de se mêler aux terrassiers occupés à la construction de la route. Dès le soir du premier jour, il avait dû y renoncer, surmené, brisé de fatigue, ses blanches mains déchirées par les quartiers de roc. Il fut trop heureux d'accepter l'emploi que le Kaudjer lui attribuait, et par lequel son insignifiante personnalité fut rapidement absorbée. Il se rétrécit encore, s'identifia à ses colonnes de chiffres, disparut dans sa fonction comme dans un tombeau. On ne devait plus entendre parler de lui. Savoir utiliser pour la grandeur de l'État jusqu'à la plus infime des forces sociales dont il dispose est peut-être la qualité maîtresse d'un conducteur d'hommes. Devant l'impossibilité de tout faire par soi-même, il lui faut nécessairement s'entourer de collaborateurs, et c'est dans leur choix que se manifeste avec le plus d'évidence le génie du chef. Pour singuliers qu'ils fussent, les choix du Kaudjer étaient les meilleurs qu'il pût faire dans la situation où le sort le plaçait. Il n'avait qu'un but, obtenir de chacun le maximum de rendement au profit de la collectivité. Or, Boval, malgré son incapacité à d'autres égards, n'en restait pas moins un avocat de valeur. Il était donc, plus que tout autre, qualifié pour assurer le cours de la justice, la surveillance du maître devant au besoin tenir en bride ses fantaisies. Quant à John Rame, c'était le plus inutile des colons. Il y avait lieu d'admirer qu'on eût réussi à tirer quelque chose de ce chiffon sans énergie ni vouloir, qui n'était bon à rien. Et pendant que l'administration de l'État hostelien s'organisait de cette manière, le Kaudjer déployait une activité prodigieuse. Il avait définitivement quitté le Bourgneuf. Ses instruments, livres, médicaments transportés au « gouvernement » ainsi qu'on désignait déjà l'ancienne maison de Lewis Doric, il y prenait chaque jour quelques heures de sommeil. Le reste du temps, il était partout à la fois. Il encourageait les travailleurs, résolvait les difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentaient, maintenait avec calme et fermeté le bon ordre et la concorde. Nul ne se fût avisé d'élever une contestation, d'entamer une dispute en sa présence. Il n'avait qu'à paraître pour que le travail s'activât, pour que les muscles rendissent leur maximum de force. Certes, dans ce peuple misérable qu'il avait entrepris de conduire vers de meilleures destinées, la plupart ignoraient de quel drame sa conscience avait été le théâtre, et l'eussent-ils connu, il n'était pas assez psychologue et manquait par trop d'idéalité pour soupçonner seulement quel ravage y avait fait un conflit entre de pures abstractions si différentes de leurs soucis matériels. Du moins, il leur suffirait de regarder leur chef pour comprendre qu'une douleur secrète le dévorait. Si le Kaoudjer n'avait jamais été un homme expansif, il semblait maintenant de marbre. Son visage impassible ne souriait plus, ses lèvres ne s'entr'ouvraient que pour dire l'indispensable avec le minimum de mots. Autant peut-être à cause de son aspect qu'en raison de la vigueur herculéenne et de la force armée dont il disposait, il paraissait redoutable. Mais si on le craignait, on admirait en même temps son intelligence et son énergie, et on l'aimait pour la bonté qu'on sentait vivante sous son attitude glaciale, pour tous les services qu'on avait reçus de lui et qu'on en recevait encore. La multiplicité de ses occupations n'épuisait pas, en effet, l'activité du Kaoudjer, et le chef n'avait pas fait tort au médecin. Pas un jour il ne manquait d'aller voir les malades et les blessés de l'émeute. Il avait d'ailleurs de moins en moins à faire. Sous la triple influence de la saison plus clémente, de la paix morale et du travail, la santé publique s'améliorait rapidement. De tous les malades et blessés, Hal guettait, bien entendu, le plus cher à son cœur. Quelque temps qu'il fît, quelle que fût sa fatigue, il passait matin et soir au chevet du jeune Indien, d'où Graziella et sa mère ne s'éloignaient pas. Il avait le bonheur de constater un mieux progressif. On fut bientôt certain que la blessure du poumon commençait à se refermer. Le 15 novembre, Halg put enfin quitter le lit sur lequel il gisait depuis près d'un mois. Ce jour-là, le Kaoudjer se rendit à la maison habitée par la famille Rhodes. « Bonjour, Madame Rhodes. Bonjour, les enfants, » dit-il en entrant. « Bonjour, Kaoudjer, » lui répondit-on à l'unisson. Dans cette atmosphère si cordiale, il perdait toujours un peu de sa froideur. Edward et Clary se pressèrent contre lui. Paternellement, il embrassa la jeune fille et caressa la joue du jeune garçon. « Enfin, vous voici, Kaoudjer !» s'écria Madame Rhodes. « Je vous croyais mort. »« J'ai eu beaucoup à faire, Madame Rhodes. »« Je le sais, Kaoudjer, je le sais, » approuva Madame Rhodes. « C'est égal, je suis contente de vous voir. » « J'espère que vous allez me donner des nouvelles de mon mari. »« Votre mari est parti, Madame Rhodes. Voilà tout ce que je peux vous dire. »« Grand merci du renseignement. Reste à savoir quand il doit revenir. »« Pas de sitôt, Madame Rhodes. Votre veuvage est loin d'être fini. » Madame Rhodes soupira tristement. « Il ne faut pas être triste, Madame Rhodes, » reprit le Kaoudjer. « Tout s'arrangera avec un peu de patience. » D'ailleurs, je vous apporte de l'occupation, c'est-à-dire de la distraction. Vous allez déménager, Madame Rhodes. Déménager ? Oui, pour aller vous fixer à Liberia. À Liberia ? Qui régit faire, Seigneur ? Du commerce, Madame Rhodes. Vous serez tout simplement la plus notable commerçante du pays. D'abord, et c'est une raison, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et aussi, je l'espère bien, parce que vos affaires vont étonnamment prospérer. « Commerçante, mes affaires !» répéta Madame Rhodes étonnée. « Quelles affaires, Kaoudjer ?»« Celles du bazar Harry Rhodes. Vous n'avez pas oublié, je suppose, que vous possédez une pacotille magnifique. Le moment est venu de l'utiliser. »« Comment ?» objecta Madame Rhodes. « Vous voulez que toute seule, sans mon mari ?» « Vos enfants vous aideront, » interrompit le Kaoudjer. « Ils sont en âge de travailler, et tout le monde travaille ici. Je ne veux pas d'oisifs sur l'île Host. » La voix du Kaoudjer s'était faite plus sérieuse. Sous l'ami qui conseillait, perçait le chef qui allait ordonner. « Tullia Seroni et sa fille, » reprit-il, « vous donneront un coup de main quand Halg sera complètement guéri. » D'autre part, vous n'avez pas le droit de laisser plus longtemps inutilisés des objets susceptibles d'accroître le bien-être de tous. « Mais ces objets représentent presque toute notre fortune, » objecta Madame Rhodes, qui paraissait fort émue. « Que dira mon mari quand il apprendra que je les ai risqués dans un pays si troublé, où la sécurité est parfaite, Madame Rhodes, » termina le Kaoudjer. « Parfaite, vous pouvez m'en croire. Il n'y a pas de pays plus sûr. » « Mais enfin, que voulez-vous que j'en fasse de toutes ces marchandises ?» demanda Madame Rhodes. « Vous les vendrez ? À qui ? Aux acheteurs. Il y en a donc, et ils ont donc de l'argent. En doutez-vous ? Vous savez bien que tout le monde en avait au départ. Maintenant, on en gagne. On gagne de l'argent à l'île Host. Parfaitement, en travaillant pour la colonie qui emploie et qui paye. La colonie a donc de l'argent, elle aussi. Voilà du nouveau, par exemple. La colonie n'a pas d'argent, expliqua le Kaudjer, mais elle s'en procure en vendant les vivres qu'elle est seule à posséder. Vous devez en savoir quelque chose, puisqu'il vous faut payer les vôtres. C'est vrai, reconnut Madame Rhodes. Mais s'il ne s'agit que d'un échange, si les colons sont obligés de rendre pour se nourrir ce qu'ils ont gagné par leur travail, je ne vois pas très bien comment ils deviendront mes clients. Soyez tranquille, Madame Rhodes. Les prix ont été établis par moi, et ils sont tels que les colons peuvent faire de petites économies. Alors, qui donne la différence ? C'est moi, Madame Rhodes. Vous êtes donc bien riche, Kaudjer ?
Il paraît.
Madame Rhodes regarda son interlocuteur d'un air ébahi. Celui-ci ne sembla pas s'en apercevoir. « Je considère comme très important, Madame Rhodes, reprit-il avec fermeté, que votre magasin soit ouvert à bref délai. »«
Comme il vous plaira, Kaudjer, accorda Madame Rhodes sans enthousiasme. »
5 jours plus tard, le Kaudjer était obéi. Quand, le 20 novembre, Caroli revint avec la Welkiège, il trouva le bazar Rhodes en plein fonctionnement. Caroli revenait seule, après avoir débarqué M. Rhodes à Punta Arenas. Il ne put répondre autre chose aux questions anxieuses de Mme Rhodes, qui demanda tout aussi vainement des explications au Kaudjer. Celui-ci se contenta de l'assurer qu'elle ne devait concevoir aucune inquiétude, mais simplement s'armer de patience, l'absence de M. Rhodes devant se prolonger assez longtemps encore. Quant à Caroli, il était émerveillé de ce qu'il voyait. Quel changement en moins d'un mois ! Liberia n'était plus reconnaissable, à peine si quelques rares maisons étaient encore à leurs anciennes places. La plupart étaient maintenant groupées autour de celles qu'on désignait sous le nom de gouvernement. Les plus voisines abritaient les 40 ménages, dont les chefs, armés aux dépens de la réserve de fusils, constituaient la police de la colonie. Les 8 fusils sans emploi avaient été déposés dans le poste situé entre le logis du Kaudjer et celui d'Hartlepool, et que plusieurs hommes gardaient jour et nuit. Quant à la provision de poudre, on l'avait mise à l'abri dans l'entrepôt ménagé au centre de l'immeuble et sans aucune issue à l'extérieur. Un peu plus loin s'ouvrait le bazar Rhodes. Ce bazar surtout émerveillait Caroli. Aucun des magasins de Punta Arenas, seule ville que l'Indien eût jamais vue, n'en égalait à ses yeux la splendeur. Au-delà, vers l'est et vers l'ouest, le travail se poursuivait. On aplanissait le sol destiné à recevoir les dernières maisons démontables, et plus loin, de tous les côtés, on travaillait également. Déjà, d'autres maisons, celles-ci en bois, celles-là en maçonnerie, commençait à s'élever hors de terre. Entre les maisons disposées selon un plan rigoureux qui ne laissait aucune place aux fantaisies individuelles, de véritables rues se croisaient à angle droit, suffisamment larges pour permettre le passage simultané de 4 véhicules. À vrai dire, ces rues étaient bien encore quelque peu boueuses et ravinées, mais le piétinement des colons endurcissait le sol de jour en jour. La route commençait dans la direction du Bourg-Neuf, avait traversé la plaine marécageuse et rejoignait déjà obliquement la rivière. Sur les berges s'amoncelait une multitude de pierres, en vue de la construction d'un pont plus solide que le ponceau existant. Le Bourg-Neuf était à peu près déserté. À l'exception de 4 marins du Jonathan et de 3 autres colons résolus à gagner leur vie en pêchant, ces anciens habitants l'avaient quitté pour Liberia, où les appelaient leurs occupations. Du Bourg-Neuf, devenu ainsi exclusivement un port de pêche, les embarcations partaient chaque matin pour y rentrer aux approches du soir, chargées de poissons qui trouvaient aisément preneur.
Toutefois, malgré la diminution de sa population, aucune des maisons du faubourg n'avait été abattue. Ainsi l'avait décidé le Kaoudjer. Celle de Karoli était donc toujours debout, et l'Indien eut la joie d'y trouver Halg presque entièrement guéri. Ce fut pour lui, par contre, un grand chagrin d'y rentrer sans le Kaoudjer, dont la nouvelle existence le séparait à jamais. Finie cette vie commune de tant d'années. Comme il était changé! En revoyant son fidèle Indien, à peine avait-il esquissé un sourire, à peine avait-il consenti à interrompre quelques minutes sa dévorante activité. Ce jour-là, comme tous les autres jours, le Kaoudjer, après une matinée consacrée aux divers travaux en cours, examina la situation de la colonie, tant du point de vue financier que du point de vue de l'état du stock de vivres. Puis il retourna sur le chantier de la route. C'était l'heure du repos. Pics et pioches abandonnés, la plupart des terrassiers sommeillaient sur les bas-côtés, en offrant au soleil leur poitrine velue. D'autres mâchaient lentement leurs rations, en échangeant des mots vides et rares. À mesure que le Kaoudjer passait, les gens étendus se redressaient, les causeurs s'interrompaient, et tous soulevaient leurs casquettes, accompagnant le geste d'une parole de bon accueil. « Salut, gouverneur !» disaient l'un après l'autre ces hommes rudes. Sans s'arrêter, le Kaoudjer répondait de la main. Il avait déjà parcouru la moitié du chemin, quand il aperçut, non loin de la rivière, un groupe d'une centaine d'émigrants, parmi lesquels il distinguait quelques femmes. Il pressa le pas. Bientôt, parti de ce groupe, les sons d'un violon vinrent frapper son oreille. Un violon. C'était la première fois qu'un violon chantait sur l'île Ost, depuis la mort de Fritz Gross. Il se mêla à l'attroupement, dont les rangs s'ouvrirent devant lui. Au centre, il y avait deux enfants. C'était l'un d'eux qui jouait, assez gauchement d'ailleurs. L'autre, pendant ce temps, disposait sur le sol des corbeilles de joncs tressés et des bouquets de fleurs des champs, sénessons, bruyères et branches de houx. Dick et Sand. Le Kaoudjer, dans cette tourmente qui avait bouleversé sa vie, les avait oubliés. Au reste, pourquoi eût-il songé à ceux-ci plutôt qu'aux autres enfants de la colonie? Eux aussi, ils avaient une famille, dans la personne du brave et honnête Hartlepool. En vérité, le petit Sand n'avait pas perdu son temps. Moins de 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait hérité du violon de Fritz Gross. Et il fallait qu'il eût de bien rares dispositions musicales pour être arrivé si vite, sans maître, sans conseil, à un pareil résultat. Certes, il n'était pas un virtuose, et même il n'y avait pas lieu de croire qu'il le devint jamais, car la technique élémentaire lui ferait toujours défaut. Mais il jouait avec justesse et trouvait, sans paraître les chercher, des mélodies naïves, ingénieuses et charmantes, qu'il égrenait les unes aux autres par des modulations d'une heureuse audace. Le violon se tut. Dick, ayant terminé son inventaire, prit la parole. « Ostelien, Ostelien ! Honorable Ostelien ! » dit-il avec une comique emphase, en redressant de son mieux sa petite taille. « Mon associé est plus spécialement chargé du rayon artistique et musical de la maison Dick & Company, l'illustre maestro Sand, violoniste ordinaire de Sa Majesté le Roi du Cap Horn et autres lieux, remercie vos honneurs de l'attention qu'on a bien voulu lui accorder. » Dick poussa un ouf sonore, reprit sa respiration et repartit de plus belle. « Le concert, honorable Ostelien, est gratuit, mais il n'en est pas de même de nos autres marchandises, lesquelles sont, j'ose le dire, plus merveilleuses encore et surtout plus solides. La maison Dick & Company met aujourd'hui en vente des bouquets et des paniers. Ceux-ci seront de la plus grande commodité pour aller au marché, quand il y en aura un à l'île Ost. 1 cent le bouquet, 1 cent le panier. Allons, honorable Ostelien, la main à la poche, je vous prie. » Ce disant, Dick faisait le tour du cercle en présentant des échantillons de sa marchandise, tandis que, pour chauffer l'enthousiasme, le violon se mettait à chanter de plus belle. Quant aux spectateurs, ils riaient, et d'après leurs propos, le Kaoudjer comprenait qu'il n'assistait pas pour la première fois à une scène de ce genre. Dick et Sand avaient sans doute l'habitude de parcourir les chantiers aux heures de repos et de faire ce singulier commerce. C'était miracle qu'il ne les eût pas encore aperçus. Cependant, Dick eut en un clin d'œil vendu bouquets et corbeilles. « Il ne reste plus qu'un panier, mesdames et messieurs, » annonça-t-il. « C'est le plus beau ! À 2 cents, le dernier et le plus beau panier !» Une ménagère versa les 2 cents. « Merci bien, messieurs et dames ! 8 cents ! C'est la fortune !» s'écria Dick en esquissant un pas de gigue. La gigue fut arrêtée net. Le Kaoudjer avait saisi le danseur par l'oreille. « Que veut dire ceci ? » interrogea-t-il sévèrement. D'un coup d'œil sournois, l'enfant s'efforça de deviner l'humeur réelle du Kaoudjer. Puis, rassuré sans doute, il répondit avec le plus grand sérieux. « Nous travaillons, gouverneur. »« C'est ça que tu appelles travailler ! » s'écria le Kaoudjer, qui lâcha son prisonnier. Celui-ci en profita pour se retourner complètement et, regardant le Kaoudjer bien en face, « Nous nous sommes établis, » dit-il en se rengorgeant. « Sand joue du violon et moi je suis marchand de fleurs et de vanneries. Quelquefois nous faisons des commissions ou nous vendons des coquillages. Je sais aussi la danse et des tours. C'est des professions, ça, peut-être, gouverneur. » Le Kaoudjer sourit malgré lui. « En effet, » reconnut-il, « mais qu'avez-vous besoin d'argent ?»« C'est pour votre subrécargue, pour M. John Rame, gouverneur. »« Comment ?» s'écria le Kaoudjer. « John Rame vous prend votre argent ?»« Il ne nous le prend pas, gouverneur, » répliqua Dick, « vu que c'est nous qui le donnons pour les rations. » Cette fois, le Kaoudjer fut tout à fait abasourdi. Il répéta, « Pour les rations ? Vous payez votre nourriture ?» « N'habitez-vous donc plus avec M. Hartlepool ?»« Si, gouverneur, mais ça ne fait rien. » Dick gonfla les joues, puis, imitant le Kaoudjer lui-même à s'y méprendre malgré la réduction de l'échelle, il dit avec une impayable gravité « Le travail est la loi !» Sourire ou se fâcher, le Kaoudjer prit le parti de sourire. Aucune hésitation n'était possible, en effet. Dick n'avait évidemment nulle intention de railler. Dès lors, pourquoi blâmer ces 2 enfants si ardents à se débrouiller alors que tant de leurs aînés avaient une telle propension à s'en reposer sur autrui? Il demanda « Votre travail vous rapporte-t-il au moins de quoi vivre ?»« Je crois bien, » affirma Dick avec importance. « Des 12 cents par jour, quelquefois 15, voilà ce qu'il nous rapporte notre travail, gouverneur. Avec ça, un homme peut vivre, » ajouta-t-il le plus sérieusement du monde. Un homme. Les auditeurs partirent d'un éclat de rire. Dick, offensé, regarda les rieurs. « Qu'est-ce qu'ils ont, ces idiots-là » murmura-t-il entre ses dents d'un air vexé. Le Kaoudjer le ramena à la question. « 15 cents, ce n'est pas mal, en effet, » reconnut-il. « Vous gagneriez davantage, cependant, si vous aidiez les maçons ou les terrassiers. »« Impossible, gouverneur, » répliqua Dick vivement. « Pourquoi impossible ?» insista le Kaoudjer. « Sand est trop petit, il n'aurait pas la force, » expliqua Dick, dont la voix exprima une véritable tendresse qui ne laissait pas d'être nuancée d'un soupçon de dédain. « Et toi ?»« Oh, moi !» Il fallait entendre ce ton. Lui, il aurait la force, assurément. C'eût été lui faire injure que d'en douter. « Alors ?»« Je ne sais pas, » balbutia Dick tout songeur. « Ça ne me dit rien. » Puis, dans une explosion, « Moi, gouverneur, j'aime la liberté !» Le Kaoudjer considérait avec intérêt le petit bonhomme, qui, tête nue, les cheveux emmêlés par la brise, se tenait droit devant lui sans baisser ses yeux brillants. Il se reconnaissait dans cette nature généreuse mais excessive. Lui aussi avait par-dessus tout aimé la liberté, lui aussi s'était montré impatient de toute entrave, et la contrainte lui avait paru si haïssable qu'il avait prêté à l'humanité entière ses répugnances. L'expérience lui avait démontré son erreur en lui donnant la preuve que les hommes, loin d'avoir l'insatiable besoin de liberté qu'il leur supposait, peuvent aimer, au contraire, un joug qui les fait vivre, et qu'il est bon parfois que les enfants, grands et petits, aient un maître. Il répliqua : « La liberté, il faut d'abord la gagner, mon garçon, en se rendant utile aux autres et à soi-même. Et pour cela, il est nécessaire de commencer par obéir. Vous irez trouver Hartlepool de ma part, et vous lui direz qu'il vous emploie selon vos forces. Je veillerai d'ailleurs à ce que Sand puisse continuer à travailler sa musique. Allez, mes enfants. » Cette rencontre attira l'attention du Kaoudjer sur un problème qu'il importait de résoudre. Les enfants pullulaient dans la colonie. Désœuvrés, loin de la surveillance des parents, ils vagabondaient du matin au soir. Pour fonder un peuple, il fallait préparer les générations futures à recueillir la succession de leurs devanciers. La création d'une école s'imposait à bref délai. Mais on ne saurait tout faire à la fois. Quelle que fût l'importance de cette question, il en remit l'examen à son retour d'une tournée qu'il désirait accomplir dans l'intérieur de l'île. Depuis qu'il avait assumé la charge du pouvoir, il projetait ce voyage d'inspection que de plus pressants soucis l'avaient forcé à remettre de jour en jour. Maintenant, il pouvait s'éloigner sans imprudence. La machine avait reçu une impulsion suffisante pour fonctionner toute seule pendant quelque temps. 2 jours après l'arrivée de Carolie, il allait enfin partir, quand un incident l'obligea à un nouveau retard. Un matin, son attention fut attirée par le bruit d'une altercation violente. S'étant dirigé du côté d'où venait le vacarme, il aperçut une centaine de femmes discutant avec animation devant une clôture de forts madriers qui leur barrait la route. Le Kaoudjer ne comprit pas tout d'abord. Cette clôture, c'était celle qui limitait l'enclos de Patterson, mais elle ne lui avait pas semblé, les jours précédents, s'avancer aussi loin. Il fut bientôt renseigné. Patterson, qui, dès le printemps précédent, s'était adonné à la culture maraîchère, avait vu, cette année, ses efforts couronnés de succès. Travailleur infatigable, il avait obtenu une abondante récolte, et depuis le renversement de Beauval, les autres habitants de Liberia s'approvisionnaient couramment chez lui de légumes frais. Son succès était dû, pour une grande part, à l'emplacement qu'il avait choisi. Au bord même de la rivière, il y trouvait de l'eau en abondance, et c'est précisément cette situation privilégiée qui était la cause du conflit actuel. Les cultures de Patterson, étendues dans un espace de 200 ou 300 mètres, commandait le seul point où la rivière fut accessible dans le voisinage immédiat de Liberia. En aval, elle était bordée sur la rive droite par une plaine marécageuse qui en interdisait l'approche jusqu'au ponceau établi près de l'embouchure, c'est-à-dire à plus de 1500 mètres dans l'ouest. En amont, la berge, brusquement relevée, tombait pendant plus d'un mile à pic dans le courant. Les ménagères de Liberia étaient donc dans l'obligation de traverser l'enclos de Patterson pour aller puiser l'eau nécessaire aux besoins de leur ménage. Et c'est pourquoi, jusqu'alors, le propriétaire de cet enclos avait ménagé un hiatus dans la barrière qui le délimitait. Mais à la fin, il s'était avisé que ce passage incessant à travers sa propriété était attentatoire à ses droits et causait de multiples dommages. La nuit précédente, il avait donc, avec l'aide de Long, barré solidement l'ouverture, d'où grave déception et grande colère des ménagères venues de bon matin chercher de l'eau. Le calme se rétablit quand on aperçut le Kaoudjer, et l'on s'en rapporta à sa justice. Patiemment, il écouta les arguments pour et contre, puis il rendit sa sentence. À la surprise générale, elle fut favorable à Patterson. À la vérité, le Coudger décida que la clôture devait être abattue sur le champ et qu'une voie de 20 mètres de large devait être rendue à la circulation publique. Mais il reconnut les droits de l'occupant à une indemnité pour la parcelle de terrain cultivé dont il était privé dans l'intérêt public. Quant à l'importance de cette indemnité, elle serait fixée dans les formes régulières. Il y avait des juges à l'île Host. Patterson était invité à s'adresser à eux. La cause fut plaidée le jour même. Ce fut la première que Beauval eut à juger. Après débats contradictoires, il condamna l'État hostelien à payer une indemnité de $50. Cette somme fut aussitôt versée à l'Irlandais, qui ne chercha pas à dissimuler sa satisfaction. L'incident fut diversement commenté, mais, en général, on goûta fort la manière dont il avait été réglé. On eut le sentiment que nul ne pourrait désormais être dépouillé de ce qu'il possédait, et la confiance publique en fut énormément accrue. C'est ce résultat qu'avait voulu le Coudger. Cette affaire terminée, celui-ci se mit en route. Pendant 3 semaines, il sillonna l'île en tous sens, jusqu'à son extrémité nord-ouest, jusqu'aux pentes orientales des presqu'îles Dumas et Pasteur. L'une après l'autre, il visita toutes les exploitations, sans en omettre une seule, tant celles qui avaient été volontairement délaissées au cours du précédent hiver que celles dont les tenanciers avaient été chassés au moment des troubles. De son enquête, il résulta finalement que 161 colons, formant 42 familles, séjournaient encore dans l'intérieur. Ces 42 familles pouvaient toutes être considérées comme ayant réussi dans leur exploitation, mais à des degrés très inégaux. Les unes devaient borner leur espoir à assurer leur propre subsistance, tandis que d'autres, les mieux pourvues en garçons robustes, auraient pu agrandir considérablement leur culture. De 28 familles, comptant 117 autres colons, contraintes au moment des troubles de se réfugier à Liberia, les exploitations, aujourd'hui très compromises, semblaient également avoir été prospères au moment où on avait dû les abandonner. Enfin, 197 tentatives d'exploitation n'avaient abouti qu'à un échec. De leurs propriétaires, une quarantaine étaient morts, et le surplus, au nombre de 780, avait successivement cherché refuge à la côte au cours de l'hiver. Les renseignements ne manquaient pas au Coudger. Les colons se mettaient avec empressement à sa disposition. L'enthousiasme était unanime quand on apprenait la nouvelle organisation de la colonie, et cet enthousiasme croissait encore à mesure qu'il faisait part de ses projets. Lui parti, on reprenait le travail avec une ardeur décuplée par l'espoir. De tout ce qu'il observait, de tout ce qu'il entendait, le Coudger prit soigneusement note. En même temps, il relevait un plan grossier des diverses exploitations et de leurs situations respectives. Ces documents, il les utilisa dès son retour. En quelques jours, il dressa une carte de l'île, carte approximative au point de vue géographique, mais d'une exactitude plus que suffisante au point de vue des exploitations agricoles qui se limitaient les unes les autres. Puis il répartit la moitié de l'île entre 165 familles qu'il choisit sans appel et auxquelles il délivra des concessions régulières. Donner à la propriété cette base solide, c'était accomplir une véritable révolution. Au régime du bon plaisir, il substituait la légalité, à la possession de fait, un titre inattaquable par celui-là même qui l'avait délivré. Aussi, ces simples feuilles de papier furent-elles reçues par leurs bénéficiaires avec autant de joie peut-être que les champs qu'elles représentaient. Jusqu'alors, ils avaient vécu instables dans l'incertitude du lendemain. Ces feuilles de papier changeaient tout. Cette terre était à eux. Ils pourraient la léguer à leurs enfants, ils se fixaient, prenaient racine et devenaient vraiment des colons, des hosteliens. Le Kaoudjer commença par consolider les droits des 42 familles qui étaient demeurées attachées à la glèbe et par rétablir dans les leurs les 28 exploitants qui ne l'avaient quitté que sous la menace des émeutiers. Cela fait, il sélectionna entre toutes 95 autres familles qui lui parurent dignes d'en appeler de leur échec. Il ne s'occupa aucunement des autres. C'était de l'arbitraire. Ce ne fut pas le seul. Si l'égalité n'eut rien à voir dans la répartition des concessions, elle ne fut pas mieux respectée au point de vue de leur importance. À ceci, le Kaoudjer laissa juste le terrain sur lequel il s'était d'abord établi, tandis qu'il diminuait la surface attribuée à cela. En même temps, il augmentait considérablement certaines exploitations. Dans toutes ses décisions, il n'obéit qu'à une unique loi, l'intérêt supérieur de la colonie. À ceux qui avaient montré le plus d'intelligence, de force et de vaillance, les concessions les plus vastes. Rien, au contraire, à ceux dont il avait pu constater l'incapacité et qu'il condamnait sans appel à rester des prolétaires et des salariés jusqu'à la mort. Le salariat, en effet, allait nécessairement faire son apparition sur l'île Hoste. Quelques exploitations, celles par exemple des 4 familles dont les rivières formaient le centre, étaient d'une telle étendue et d'une telle prospérité qu'elles eussent suffi à occuper plusieurs centaines d'ouvriers. L'ouvrage ne manquerait donc pas à ceux qui préféreraient le travail des champs à celui de la ville. Pour la deuxième fois, Liberia se dépeupla. Son titre de concession à peine en poche, chaque titulaire partait avec les siens, bien pourvus de vivres, dont la provision pourrait, d'ailleurs le Kaoudjer l'affirmait, être ultérieurement renouvelée. Quelques-uns de ceux qui n'avaient pas été favorisés les imitèrent et allèrent louer leurs bras dans la campagne. Le 10 janvier, la population fut réduite à 400 habitants environ, dont 250 hommes en âge de travailler. Les autres, soit un peu moins de 600, y compris les femmes et les enfants, étaient maintenant disséminés dans l'intérieur. Ainsi que le Kaoudjer avait pu s'en assurer au cours de son voyage, la population totale n'atteignait plus en effet le millier. Le surplus était mort, dont près de 200 dans le seul hiver qui venait de finir. Encore quelques hécatombes de ce genre, et l'île Hoste redeviendrait un désert. L'avancement du travail se ressentit de la diminution du nombre des travailleurs. Le Kaoudjer ne parut pas s'en soucier. On comprit bientôt sa tranquillité. Quelques jours plus tard, le 17 janvier, un vapeur mouillait en face du Bourgneuf. C'était un grand navire de 2000 tonneaux. Dès le lendemain, son déchargement commençait, et les Libériens émerveillés virent défiler d'incalculables richesses. Ce fut d'abord du bétail, des moutons, des chevaux et jusqu'à 2 chiens de berger. Puis ce fut du matériel agricole, charrues, herses, batteuses, faneuses, des semences de toutes sortes, des vivres en quantité considérable, des voitures et des chariots, des métaux, plomb, fer, acier, zinc, étain, etc., du petit outillage, marteau, scie, burin, lime et cent autres, des machines-outils, forges, perceuses, fraiseuses, tours à bois et à métaux, et beaucoup d'autres choses encore. En outre, le steamer ne contenait pas que ces objets matériels. 200 hommes, composés par moitié de terrassiers et d'ouvriers du bâtiment, avaient été amenés par lui. Quand le déchargement du navire fut terminé, ils se joignirent aux colons, et les travaux menés par 450 bras robustes recommencèrent à avancer rapidement. En quelques jours, la route du Bourgneuf fut terminée. Pendant que les maçons s'occupaient, les uns de la construction du pont, les autres de celle des maisons, on amorça vers l'intérieur une seconde route qui, divisée en nombreuses branches, serpenterait plus tard entre les exploitations et porterait la vie à travers l'île, artères et veines de ce grand corps jusque-là inerte. Les Libériens n'étaient pas au bout de leur surprise. Le 30 janvier, un second steamer arriva. Il provenait de Buenos Aires et apportait dans ses flancs, outre des objets analogues aux précédents, une cargaison importante destinée au Bazaar Roads. Il y avait de tout dans cette cargaison, jusqu'à des futilités, plumes, dentelles, rubans, dont pourrait désormais se parer la coquetterie des hosteliennes. 200 nouveaux travailleurs débarquèrent de ce deuxième steamer, et 200 encore d'un troisième, qui mouilla en rade le 15 février. À dater de ce jour, on disposa de plus de 800 bras. Le Couger estima ce nombre suffisant pour commencer la réalisation d'un grand projet. À l'ouest de l'embouchure de la rivière furent jetées les premières assises d'une digue qui, dans un avenir prochain, transformerait l'anse du Bourgneuf en un port vaste et sûr. Ainsi, peu à peu, sous l'effort de ces centaines de bras que dirigeait une volonté, la ville se bâtissait, se redressait, s'assainissait, se vivifiait. Ainsi, peu à peu, surgissait du néant la cité.